Alors bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce mardi de l'égalité de mars 2026 avec Léane Alestra, chercheur en études de genre et journalisme politique. D'autant plus en ce mois de mars, marqué par deux journées internationales symboliques. La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, et la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars. Je tiens à remercier le service culturel et la mission égalité de l'université Rennes 2 pour la coprogrammation en fait de ce mardi et les équipes du CREA pour tout le support technique. La réflexion proposée par notre invité ce soir nous permet précisément de faire le lien entre des luttes indissociables. La lutte pour le droit des femmes et des minorités de genre et la lutte contre le racisme dans une économie libérale mondialisée. Dans un contexte où l'on observe de plus en plus clairement un détournement des droits des femmes à des fins identitaires et racistes, il devient nécessaire d'analyser la manière dont les idéologies réactionnaires d'extrême droite peuvent infuser certains collectifs se revendiquant féministes, parfois bien au-delà des seuls groupes situés explicitement à l'extrême droite de l'échiquier politique. Est-ce une évolution propre à notre époque, ou bien est-ce une illusion de penser que le féminisme, dans sa pluralité, serait nécessairement imperméable aux idéologies réactionnaires et aux rapports de domination de genre, de classe et de race? Qu'est-ce que d'ailleurs le fémonationalisme, et dans quelles racines sociales et politiques s'inscrit-il? C'est à ces questions et sans doute à bien d'autres que Léane Alestra apportera son éclairage ce soir, dans un contexte international marqué par la guerre et où la rhétorique de l'émancipation des femmes est parfois mobilisée par certains États pour justifier des politiques ou des interventions visant d'autres pays, alors même que l'on constate un recul des droits des concernés dans ces mêmes pays. Alors ce soir, c'est aussi l'occasion de rappeler que notre partenaire, la librairie Comment Dire, tient à votre disposition l'ouvrage de Léane Alestra, le livre intitulé « Les vigilantes ». À l'issue de son intervention, nous prendrons quelques questions dans le public. Je me permets simplement de rappeler que ces échanges doivent se faire dans un cadre de respect, d'écoute et de dialogue afin de permettre une discussion de qualité avec notre invité. Je passe maintenant la parole à Léane Alestra, que je remercie pour avoir accepté notre invitation, et je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter le travail que j'ai fait autour des vigilantes. Alors déjà pour commencer, je vais dire un petit peu quelques mini-règles qu'il y a. Je vais parler à peu près 45 minutes, 50 minutes, mais considérez qu'ici vous êtes à la maison et que s'il y a un terme que je dis que vous ne comprenez pas, levez la main et demandez-moi d'expliquer ce terme. Je suis vraiment là pour ça, donc vraiment n'ayez pas peur ou s'il y a quelque chose qui vous semble flou, dites-le moi et je reformule pour mieux vous expliquer. Et ensuite, il y aura un tour de questions à la fin. Donc pendant la conférence, s'il y a des notions ou des mots ou quelque chose que je dis que vous n'avez pas compris, je peux revenir dessus. Et après, on approfondira au moment des questions-réponses, après l'échange. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit point méthodologie pendant l'intervention. Et ensuite, je vais revenir un petit peu sur ma présentation et vous expliquer rapidement mon parcours et qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ces questions-là. Donc moi, en 2019, j'ai fondé un média qui était à la base un podcast avec une présence sur le blog Mediapart et sur Instagram qui s'appelait Mécréante, qui vulgarisait les enjeux liés au genre en donnant la parole à des chercheuses et des chercheurs sur le sujet pour vulgariser, comme je l'ai dit, ces notions-là. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une présence de l'extrême droite très forte en ligne, surtout que pendant le confinement, il n'y avait pas de modération. Et j'ai assisté à l'essor du groupuscule identitaire Némésis, que vous connaissez à présent, depuis le début de sa création jusqu'à aujourd'hui. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'experts de l'extrême droite, mais peu qui croisaient les notions de genre et d'extrême droite, avec justement une mise en avant de cette perspective féminine. Il y en avait, hein. Il y a par exemple Magali Della-Souda qui a travaillé sur le sujet, mais il n'y avait pas quelque chose de précis sur Némésis. Donc j'ai repris mes études en études de genre à Paris 8, j'ai été encadrée par Mehdi Derfoufi et j'ai fait un premier mémoire du coup sur le corpuscule identitaire Némésis. Et j'ai fait un deuxième mémoire sur l'utilisation du féminisme par Emmanuel Macron, donc sur une forme de fémonationalisme plus large, on y reviendra après. Les Vigilantes, du coup, est la compilation, entre guillemets, et plus, de ces deux mémoires, où j'ai ensuite fait des recherches complémentaires dessus, bien sûr. Et aussi, il a été encadré par la maîtresse en conférence de sociologie, Anan Karimi, qui a déjà été reçue ici, dans le même cycle que moi, et donc qui a encadré cet ouvrage pour être sûr que le fond est conforme à des attentes universitaires, mais la forme est grand public et facile à lire. Enfin, le début est un petit peu compliqué, mais après ça va. Voilà, je préfère le dire parce que des fois, les gens ont un peu peur quand ils le commencent, donc le début est un peu plus ardu, mais après ça va. Et justement, je vais commencer par vous raconter l'ouverture. Le début de ce livre parle de la création de l'État-nation. Donc, pourquoi je commence par parler de l'État-nation pour ensuite parler des femmes de droite ? Eh bien, parce que ce n'est pas un livre qui, comme l'a fait par exemple Magali de la Souda, va cartographier les différents mouvements féminins d'extrême droite. C'est un travail qui est extrêmement important à faire, mais qui n'est pas celui que j'ai fait dans ce livre. Moi, ce livre, il pose plutôt la question de pourquoi et comment on arrive à une société où il y a des femmes à la tête des mouvements d'extrême droite et où il y a des groupes mis en avant médiatiquement qui sont féminins et qui sont à l'extrême droite. Ça pose en fait la question de qu'est-ce qui, dans notre civilisation, entre guillemets, donne cette place très particulière aux femmes blanches qui se retrouvent, comme je l'ai dit, au cœur du récit national. Donc on commence par parler de l'État-nation, parce que l'État-nation, sa particularité, c'est qu'il a été créé en Occident il n'y a pas si longtemps, et il a en son cœur une identité, un roman national, et ce roman national, il est toujours genré. Je m'explique, en France, on a plusieurs symboles nationaux, on a notamment Marianne. Marianne, elle avait le sein dénudé pour montrer que la nation est nourricière comme une mère nourrit son peuple. Ben voilà, ça c'est un exemple de en quoi notre récit national, il comporte toujours une dimension genrée. Donc pour moi, c'était important au début de Les Vigilantes de revenir sur cet aspect-là pour comprendre en fait que les idéologies nationalistes, ont quelque chose à dire et disent quelque chose des femmes aussi dans la façon dont ils racontent le roman national et le récit national. Elles sont des allégories, elles sont des égéries, des vitrines qui sont importantes à la fois à l'échelle macro, puisque on n'a pas que l'extrême droite qui utilise ces procédés-là. Vous avez sûrement vu Marlène Schiappa, on y reviendra, en couverture de Playboy sous les traits de Marianne, et ça va jusqu'à bien sûr Némésis, en passant par d'autres mouvances comme par exemple celle du Printemps républicain, qui mettait aussi en exergue des pans genrés, que ce soit par ce qu'on appelle du fémonationalisme ou de l'homonationalisme. Voilà. Et c'est aussi important de comprendre que toute cette vision qu'on a des femmes blanches, qui est au cœur des récits nationalistes qu'on a aujourd'hui, elle s'est forgée notamment pendant la colonisation. Avec cette idée que pendant la colonisation, on va créer un roman national aussi en miroir et en négatif des peuples qu'on est en train de coloniser. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi rendre plus rigides les catégories de genre, donc c'est-à-dire homme, femme, hétéro, homo. Donc le mot, par exemple, hétérosexuel désignait à la base, au tout début, une maladie mentale comme homosexuel, et ces catégories vont être affinées pour montrer qu'est-ce qui est la norme, qu'est-ce qui est la déviance, et y compris au sein des catégories, donc ce qu'on va considérer être une femme, il va y avoir la femme, et ensuite la bonne femme et la mauvaise femme, entre guillemets. Et souvent, la mauvaise femme va être incarnée dans les figures des femmes qui sont colonisées. Donc, par exemple, aux femmes blanches, on va leur demander d'avoir un comportement moral exemplaire, de ne pas accoucher à droite à gauche, pour le dire de façon vulgaire, et on va présenter en parallèle les femmes colonisées dans les pays arabes ou les femmes noires comme étant très érotiques, très sexuelles et tentatrices. Donc, on voit que les notions de genre évoluent aussi en fonction de l'arbitrage politique qui est fait, et dans ce rôle-là, les femmes aussi jouent une place et une importance. Donc toute la première partie des Vigilantes, si vous le lisez, vous le verrez, revient un petit peu sur ça, sur par exemple l'évolution de Marianne dans le roman national, sur à quel point les femmes ont joué un certain rôle ambivalent, et pas n'importe quelle femme, les femmes souvent de la haute bourgeoisie ont joué un rôle pendant la colonisation qui est beaucoup plus ambigu que ce qu'on peut le penser, et parfois un rôle de premier plan. Elles servaient notamment dans certaines colonies à civiliser les femmes colonisées en leur apprenant les bonnes manière, puisqu'en fait, dans le récit national, les femmes, elles sont les gardiennes de la morale, parce que ce sont à elles qu'on donne la charge d'élever les futurs citoyens, et donc il faut à la fois les contrôler de façon assez étroite, puisque si elles commencent à faire n'importe quoi, eh bien, on considère que les futurs citoyens vont faire n'importe quoi, et donc, je cite, que ça va être une forme de dégénérescence de la race, entre guillemets, pour reprendre les discours nationalistes. Et il y a vraiment cette idée au cœur de ce roman national que les femmes sont la vitrine en fait du roman national. C'est pour ça qu'on a aussi souvent des comparaisons entre la terre, le viol des terres et le viol des femmes, le viol des frontières et les viols des femmes, et que à l'extrême droite, on a toujours un fil tendu entre les frontières des genres qu'on essaye de verrouiller et les frontières du territoire national qu'on essaye de verrouiller aussi. Donc il faut comprendre que le sexisme est racialisé et que dans le racisme, il y a toujours une part de sexisme à ce racisme-là. C'est-à-dire qu'on va considérer, par exemple, dans le discours raciste, que les hommes noirs sont ultra virils. Que les femmes noires sont elles aussi ultra viriles, mais en même temps extrêmement sexuelles, etc. Enfin, il y a toujours une dimension sexualisée et sexualisante dans les discours racistes. Et ces discours racistes-là, ils ont été au cœur de nos sociétés, et pas que à l'extrême droite, puisqu'on est l'héritage d'une société coloniale, impériale, néolibérale, colonialiste, je l'ai déjà dit, et bien sûr capitaliste, donc qui s'est construit sur l'exploitation de ressources des peuples colonisés et a pour ça construit un narratif identitaire et nationaliste qui plaçait les pays occidentaux comme étant supérieurs aux autres et comme étant les plus civilisés, et donc devant expliquer des normes de genre aux pays qu'ils étaient en train de coloniser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de la moitié des pays qui continuent à interdire l'homosexualité, par exemple, ce sont des lois qui ont été imposées pendant la colonisation. Il faut comprendre qu'on a colonisé plus de 80% du territoire et qu'on a imposé justement nos normes de genre, hommes, femmes, hétéros, homo, dans tous ces territoires-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de patriarcat qui existait ailleurs, mais on l'a uniformisé et il y avait effectivement des endroits où les systèmes de genre étaient beaucoup plus complexes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et même les pays qui n'ont pas été directement colonisés ont essayé ensuite de coller au modèle occidental qui était hégémonique. Je pense par exemple à l'Iran qui n'a pas été strictement colonisé. Quand le Shah arrive, eh bien, il va interdire l'homosexualité puisqu'il y avait un homoérotisme très présent dans la culture de l'époque, mais c'était considéré comme quelque chose d'arriéré. Et aujourd'hui, on voit que le discours s'est presque renversé et se re-renverse encore puisqu'on a déjà eu toutes les politiques de pinkwashing et d'utilisation d'une rhétorique LGBT pour continuer le néo-impérialisme en disant à bas mot que nous sommes une civilisation cette fois éclairée parce qu'on tolère les personnes LGBT et les féministes, sauf qu'on n'a pas eu le choix de les tolérer. C'est parce qu'il y a eu des mouvements sociaux très forts qui ont réussi à gagner des droits dans les années 70 notamment, qu'ensuite il y a eu un changement de paradigme. Mais on voit toujours comment l'impérialisme arrive à se remettre dans ce paradigme-là, puisque de la même façon que, par exemple, quand la France a dû et a été obligée d'arrêter l'esclavage, elle a ensuite continué des formes de colonialisme en Afrique au nom du fait qu'elle allait émanciper les Africains de l'esclavage, esclavage qu'elle avait été elle-même contrainte d'arrêter. Voilà, donc ça c'est un petit peu toujours le cas. On est toujours un petit peu dans cette période où on se raconte, nous, société occidentale, comme étant supérieure parce que nous, on tolère bien les femmes et les personnes LGBTQIA. Ça sonne de moins en moins vrai à mesure que l'extrême droite n'a plus besoin de se cacher et au pouvoir. Je pense évidemment aux États-Unis, à la Hongrie, à l'Italie et à bien d'autres pays. C'est aussi le cas en Amérique latine où il y a des blocs très forts et l'extrême droite qui est là au pouvoir ou qui est très forte. Et donc tout ça est important à comprendre pour comprendre qu'on est dans un contexte à la fois global et international et qu'on est en même temps dans des choses qui bougent, dans un récit qui bouge. On peut avoir jour 1 les Occidentaux qui disent que les autres populations sont barbares, incivilisées, parce qu'il y avait encore des populations où les hommes pouvaient donner le sein, ou par exemple il n'y avait pas de genre mais sept genres, ou il n'y avait pas de comportement hétéronormatif, il y avait toute une myriade en fait de façons de cohabiter et de s'organiser qui étaient très différentes, et on les taxait de barbares pour ça. Et le lendemain, on peut dire que nous sommes éclairés parce qu'on a une grande tolérance sur les différentes identités et diversités qui sont au sein de nos civilisations. Donc dans ce récit-là, on en arrive aux années 80, avec la période qui va marquer le début de ce qu'on appelle ensuite le fémonationalisme. Alors le fémonationalisme, c'est une notion qui a été imaginée par la sociologue Sarah R. Faris pour parler de l'utilisation du droit des femmes à des fins réactionnaires, conservatrices, sécuritaires, racistes, Voilà, vous avez l'idée. À la base, quand elle crée cette notion, Sarah Faris, au sein de sa thèse, elle ne pense pas à l'extrême droite. Elle parle plutôt des fémocrates, comme elle dit, ou des féministes d'État. Donc plutôt du fait que dans les années 80, il commence à y avoir dans plusieurs pays, dont la France, un ministère de l'égalité femmes-hommes qui va arriver. Et du coup, l'État va se mettre à dialoguer avec certaines féministes, féministes qui sont pas trop révolutionnaires, pas trop radicales et qui veulent bien être dans une forme de compromis et de dialogue avec l'État. Et l'État va commencer du coup à trier officiellement les bonnes féministes des mauvaises et donc garder aussi les féministes qui sont le plus proches du statu quo sous sa protection entre guillemets. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir, y compris dans les mouvements féministes, des rhétoriques islamophobes qui commencent à s'installer, qui vont donner plus tard les théories du grand remplacement de Renaud Camus, par exemple. Donc dès les années 80, on a une couverture du Figaro qui montre Marianne qui porte le hijab en disant « si on ne fait rien, toute la France sera comme ça dans 30 ans ». Voilà. Et on a progressivement un arsenal législatif qui commence à arriver en France pour restreindre le port du hijab, avec très peu de prise en considération du paternalisme blanc qu'il y a sur ce type d'intervention politique, et très peu de recul aussi sur le fait que non seulement ça permet de revenir dans une période où l'État peut contrôler la tenue des femmes, mais en plus après s'ouvre à de plus en plus un arsenal propice à un retour anti-féministe étatique. Donc à la base, Sarah Faris, quand elle parle de fémonationalisme, elle parle de ça. Mais en France, on va avoir des exemples du coup de féministes d'État que vous connaissez bien, dont Marlène Schiappa, qui elle est une figure très importante de notre fémonationalisme récent, puisque Marlène Schiappa, vous avez peut-être remarqué, dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, a été la figure qui a été le plus médiatisée. Ma théorie, c'est que, selon moi, elle a été autant médiatisée, parce que déjà, elle était bonne oratrice et pas trop impopulaire au début, mais aussi parce qu'elle servait à incarner ce que Emmanuel Macron et sa vision attendent de la femme conventionnelle d'aujourd'hui, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire une femme qui est cadre supérieur, qui est à la fois mère, mais qui en même temps travaille, qui donc est doublement productrice d'enfants pour l'État et productrice économiquement par le travail, sans se plaindre. Donc vraiment cette idée de femme totale qui a une sexualité, certes, qui est un petit peu plus assumée, mais qui reste quand même reproductrice et hétérosexuelle, cisgenre, tout ce que vous voulez. Voilà. Et Marlène Schiappa, elle est aussi intéressante parce que dès qu'elle arrive au gouvernement, tout de suite, il y a du fémonationalisme dans sa politique. Une des premières mesures qu'elle met en place, c'est le fait de dire qu'elle veut lutter contre le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue qui est un réel problème pour de nombreuses femmes, mais qui devrait, selon moi, être étendu au harcèlement de rue plus global. Par exemple, les hommes racisés qui vivent un harcèlement constant de l'État par le fait qu'on leur demande tout le temps leurs papiers pour prouver qu'ils sont bien français, c'est aussi une forme de harcèlement de rue, selon moi. Donc Marlène Schiappa utilise cette revendication qui était assez forte dans certaines sphères féministes à ce moment-là pour en fait simplement rajouter des effectifs de police dans les quartiers populaires. Donc elle va dire, selon source t'inquiète, on pourrait dire, qu'il y a des quartiers qui sont plus propices au harcèlement, qui sont les quartiers populaires. Donc elle dit que ce sont des zones rouges, et elle envoie plus d'effectifs de police dans ces quartiers-là, policiers qui sont censés, du coup, mettre des amendes quand ils voient en flagrant délit un homme harceler quelqu'un dans la rue. Comment on fait quand c'est le policier qui harcèle ? Ça, on ne sait pas. Et bien sûr, il y a eu un nombre dérisoire de condamnations suite à ça. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait un second volet à cette loi. Le second volet de cette loi, c'était, pour Marlène Schiappa, le fait de dire qu'elle allait proposer aux commerçants des villes de mettre des petits stickers sur la porte de leur vitrine pour que les femmes ou les personnes LGBT qui sont victimes de harcèlement de rue puissent se réfugier à l'intérieur des cafés, par exemple, en ayant vu le petit sticker. Bon, déjà, c'est sûr que quand on se fait courir après dans la rue, la première chose qu'on regarde, c'est s'il y a un petit sticker pour rentrer. Non, évidemment, on rentre se réfugier, mais plus important encore, il y a quelque chose qui se joue là-dedans, c'est le fait de dire aux femmes et aux personnes LGBTQIA que on est impuissant, que finalement elles seront toujours en danger dans la rue, qu'on ne peut rien faire et que le seul moyen de s'en sortir, c'est qu'elles retournent à la maison, qu'elles retournent à l'intérieur symboliquement, puisque c'est ça qu'on leur dit. On leur dit, si vous êtes en danger, quittez l'espace public et on ne fera rien de plus, puisque l'objectif derrière aussi, c'est de ne pas mettre un euro de plus sur la table, évidemment. Et donc ça, c'est des mesures qui coûtent rien, alors qu'on sait qu'il y a des choses qui sont efficaces pour assurer la sûreté des femmes dans la rue. Il y a beaucoup de recherches qui ont été menées sur l'aménagement de l'urbanisme, mais bon, ça, c'est pas des choses qui sont à l'ordre du jour, puisque le but n'est pas de réellement lutter pour plus de sûreté dans l'espace public, mais simplement de faire avancer un agenda raciste et réactionnaire. Et ce qui est intéressant, du coup, dans cet exemple que je prends, c'est qu'il illustre bien ce qu'est le fémonationalisme. Le fémonationalisme, c'est d'abord toujours du racisme, en premier lieu, mais il y a toujours un effet de balance qui fait qu'il a besoin du sexisme pour avancer. Donc là, dans ce cas-là, c'est le racisme. On va ajouter des effectifs de police dans les quartiers populaires qui vont surveiller les corps des hommes de classe populaire qui sont arabes ou noirs, disons-le. Et pour ça, on a besoin de sexisme. On a besoin de réifier les femmes comme étant pour toujours et de façon quasiment naturelle des proies qui sont fragiles, vulnérables, incapables de se défendre elles-mêmes, incapables de s'auto-organiser et qui doivent avoir donc un État fort, sécuritaire, avec un dispositif de plus en plus se rapprochant d'un autoritarisme pour les protéger du coup de la menace extérieure. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre que dans toutes ces idéologies fémonationalistes, il y a toujours un recul des droits des femmes qui va avec ce racisme-là. C'est toujours quelque chose qui est lié. Mais pourtant, on a quand même des femmes, et Marlène Schiappa la première, qui vont défendre ces idéologies fémonationalistes. Dans le livre, du coup, j'explique cela avec déjà premièrement le titre, qui s'appelle donc « Les vigilantes surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite ». Surveillée et surveillante, parce qu'en fait, ce que je développe dans le livre, c'est qu'il y a un pacte social qui est adressé aux femmes plutôt conventionnelles, donc aux femmes qui peuvent prétendre se rapprocher du statu quo. Et pour le dire grossièrement, ce pacte-là, c'est si tu veux avoir un accès aux droits réels, puisque ça fait quand même pas longtemps que les femmes ont un accès aux droits, mais encore moins un accès aux droits réels. Donc si tu veux avoir un accès aux droits réels, si tu veux être lisible dans l'appareil national, avoir une place, qui sera certes toujours une place de second violon, certes toujours tu seras derrière les hommes de ta classe, mais au moins tu seras lisible dans l'appareil social. Mais pour ça, il faut que tu te surveilles déjà en premier lieu, que tu surveilles d'être habillé correctement, de parler de façon correcte, de rester à ta place quand il faut, d'incarner un modèle de féminité conventionnelle, et ensuite que tu te fasses surveillante des autres, donc de vérifier que les femmes n'aient pas de jupe trop courte, mais dire celles qui ont des comportements qui sortent justement des attentes genrées et sexistes, et bien sûr, en échange, tu pourras jouir d'une forme de violence et de domination sur les personnes qui sont plus marginalisées que toi dans l'appareil national. Donc ici, par exemple, tu pourras jouir de violence exercée sur les personnes racisées, sur les personnes trans, LGBTQIA, etc. C'est un contrat qui est toujours donné à des personnes qui cumulent quand même plusieurs points les rapprochant du statu quo. Donc ça ne veut pas dire que c'est toujours que des femmes cis, hétéro, blanches, qui sont mariées, etc. Mais il faut qu'il y ait quand même quelques points pour qu'elles puissent accéder à ça. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les vigilantes, en raison de cette vigilance qui leur est demandée envers elles-mêmes. Et c'est aussi en référence au vigilantisme qui était en fait aux États-Unis. Il y avait pendant la ségrégation des hommes qui la nuit allaient massacrer des hommes noirs sous couvert qu'ils avaient violé des femmes blanches, ce qui n'était pas toujours le cas. Parfois c'était des histoires inventées par des hommes, hein, pas inventées par des femmes, je précise, donc inventées par des hommes pour assouvir leur pulsion raciste. Donc il y avait soit des fois c'était des relations qui avaient existé mais qui étaient consenties, mais ça c'était inimaginable et on va expliquer pourquoi après, soit elles étaient inventées, et donc c'était des hommes qui agissaient la nuit, qui étaient masqués, qui faisaient ça de façon extrajudiciaire, et ils avaient donc les yeux bandés, chose qui est restée après dans Batman, les super-héros, etc., puisqu'il y avait cette idée qu'ils ont une supervision, contrairement à la justice qui, elle, a les yeux bandés, et qu'eux peuvent se faire justice elles-mêmes. Donc il y a toujours cet imaginaire-là qui est au cœur, en fait, des politiques fémonationalistes et au cœur des projets des groupuscules identitaires comme Némésis. On y arrive, donc ne vous inquiétez pas. Donc justement, après, là, il y a une partie que je ne vais pas développer dans le livre qui explique pourquoi toutes les femmes ne sont pas féministes et quels sont les trois piliers principaux qui expliquent cela, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. On va plutôt repartir justement sur ensuite les femmes vraiment à l'extrême droite cette fois. Donc dans le livre, il y a deux catégories et deux profils d'actrices, vraiment. Donc là, je parle plutôt de militantes, de femmes politiciennes engagées à l'extrême droite. La première catégorie que j'identifie, ce sont celles que j'appelle les jeunes guerrières. Donc là, il va y avoir par exemple le groupuscule Nemesis, que vous connaissez peut-être, et par exemple Thaïs Descuffon ou d'autres femmes comme ça. Le point commun entre elles, c'est que ce sont des femmes qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas mères, qui sont jeunes, qui sont considérées à la base à l'extrême droite comme étant des égéries. Elles ont le droit de porter les armes. Elles n'ont pas le droit, en revanche, normalement à la base, de faire la ligne politique d'extrême droite. Elles sont censées être des vitrines pour donner envie, pour recruter, pour rajeunir le mouvement, pour servir de vivier quand il y a des questions de quotas, par exemple, pour les élections, puisque le RN a longtemps été le parti où il y avait le moins de femmes en fait, présentées sur les listes, et ils ont besoin de rattraper ce retard-là pour essayer de gagner électoralement. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces femmes-là, elles vont, par exemple, comme c'est le cas de Thaïs Descuffon, qui est une vidéaste d'extrême droite, qui était porte-parole de Génération Identitaire avant, elles vont se comparer à Jeanne d'Arc, par exemple, avec cette idée qu'elles sont dans une forme sacrificielle pour la nation, et ce qui justifie le fait qu'elles se mettent en avant, alors que normalement, dans les idéologies d'extrême droite, les femmes sont censées pas trop s'incarner dans l'espace public. Mais là, elles disent que, en gros, pour reprendre leur discours de façon très grossière, les hommes se sont dévirilisés, plus personne n'est là pour les protéger, du coup, elles n'ont pas le choix que de sortir du bois, et le jour où les hommes feront bien leur travail, elles reviendront à la cuisine, mais là vraiment elles ne peuvent pas, elles doivent se sacrifier et faire de la politique, elles n'ont pas le choix, c'est très très dur, et donc c'est un petit peu ce discours de funambule de la haine qu'elles utilisent. Et en sociologie, on parle de virilité alternée pour parler de ces comportements un peu contradictoires qu'elles ont. Par exemple, si vous prenez Némésis, moi qui ai beaucoup étudié leurs réseaux sociaux, il y avait une photo où elles étaient en robe à fleurs, toute la même robe à fleurs longue, avec des fleurs blanches dans les mains, les cheveux détachés, toutes longues, un certain maquillage très propre, etc. Et la photo d'après, elles étaient en train de tirer à l'arme à feu ou en train de mener des combats de boxe. Et en fait, les fois où elles sont très féminines, ça sert à montrer aux hommes de leur camp social, leur camp politique, pardon, qu'elles sont conformes, qu'elles se conforment aux attentes genrées qui pèsent sur elles, qu'elles sont OK avec cette féminité conventionnelle. Mais en même temps, comme elles sont dans des milieux qui valorisent beaucoup la violence et l'action directe, elles doivent aussi montrer qu'elles peuvent taper du poing et qu'elles peuvent être utiles, etc., etc. Donc elles sont toujours un peu sur cette tangente contradictoire. Et elles subissent évidemment du sexisme en interne, mais ce sexisme est selon elles contrebalancé par la jouissance qu'elles ont d'exercer de la violence elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles ne se voient pas comme des victimes, puisqu'avant d'être des victimes, elles sont des agresseuses envers d'autres groupes sociaux. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter sur cette catégorie des jeunes guerrières ? Oui, bon, dans le cas de groupuscules comme Némésis, qui sont des très petits groupuscules qui ont un accès médiatique immense, mais il faut comprendre qu'elles doivent être 30 membres actifs en France, qu'à chaque fois elles disent qu'elles ont des antennes, mais en fait ça peut être une personne qui s'est manifestée qui va peut-être même rien faire, et elles disent qu'elles ont une antenne en France. Et il y a un noyau dur, c'est très hiérarchique évidemment, avec une chef qui est Alice Cordier. Toutes ces femmes sont issues de la haute bourgeoisie ou de la noblesse pour ce qu'il en reste, ou de l'aristocratie. Elles sont citadines, blanches, hétérosexuelles. Si ça vous intéresse, je vous invite à parcourir l'ouvrage de Magali Della Souda, qui est peut-être à votre BU, et qui revient très bien sur la sociologie de ces groupes-là. Voilà. La deuxième typologie de femmes que j'examine dans Les Vigilantes, c'est celle que j'appelle les mères de la nation. Donc elles sont plus rares. Ce sont des femmes qu'on peut retrouver à la tête des partis politiques d'extrême droite, donc Giorgia Meloni, Marine Le Pen jusqu'à très récemment. On a aussi Alice Weidel en Allemagne, il y en a d'autres en Amérique latine, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Ce qui est important de comprendre chez les maires de la nation, c'est qu'elles ont un petit peu plus de droits politiques parce qu'elles ont enfanté. Donc, le point commun entre elles, c'est qu'elles sont blanches, évidemment, c'est qu'elles ont eu des enfants. Après, elles peuvent, comme Marine Le Pen ou Giorgia Meloni, être divorcées. Alice Weidel est lesbienne. Il peut y avoir des différences, mais le tronçon, c'est toujours ça. Elle a été mariée, a eu des enfants, donc a payé son tribut à la nation. Et ensuite, elles sont surtout présentées comme étant les héritières légitimes, pour une raison ou pour une autre. Donc, par exemple, Marine Le Pen, héritière légitime, avec vraiment cette mentalité presque royaliste. Hein. Elle est là, pas parce qu'elle est féminine, mais parce qu'elle est la meilleure héritière. Donc, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Alice Weidel, les petites filles de nazis. Et c'est, en Amérique latine, il y en a beaucoup qui sont aussi épouses d'eux, et aux États-Unis, qui étaient soit proches de la famille de Donald Trump, soit en Amérique latine, filles d'eux, sœurs d'eux, ou femme d'eux. Le cas un peu à part, c'est Giorgia Meloni, qui, elle, a construit beaucoup son narratif sur le fait qu'elle avait un père de gauche qui l'a abandonné très jeune. Sa mère est plutôt de très, très à droite. Donc, elle a pris plutôt la tangente maternelle. Et son récit, c'est plutôt de dire qu'elle est la meilleure chance pour l'Italie de réincarner l'héritage fasciste. Et donc voilà. Un petit peu pour les deux catégories. Et ensuite, dans le livre, j'explore encore d'autres choses, à savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui les ennemis beaucoup utilisés par ces groupes de femmes, ça va être les femmes transgenres et les femmes musulmanes et bien sûr les hommes issus de l'immigration. Et j'explore aussi tout le rôle des associations de mères, d'élèves et à quel point l'extrême droite essaye de faire une jonction entre pouvoir parental, pouvoir adulte et pouvoir d'État. Et c'est le cas notamment du parti d'Éric Zemmour qui, avec parents vigilants, essaie d'organiser des cercles de surveillance en gagnant les élections de délégués parentaux dans les écoles. Et donc en leur demandant, en essayant ensuite de dénoncer des profs qui seraient jugés, selon eux, trop woke, etc. Donc vraiment essayer d'organiser la surveillance. Donc toujours, on en revient à surveiller et surveillante, avec cette idée qu'on demande à ces femmes-là de faire le travail aussi de contrôle social sur les populations. Et je parle aussi, enfin, je vous dis ça parce que si vous avez des questions, on y reviendra, mais je ne vais pas développer tout. Et je parle aussi de certaines trajectoires de femmes, mais ça pourrait s'appliquer à des hommes, qui étaient vus comme libéraux ou plutôt de gauche et qui sont passés à l'extrême droite, avec une analyse et une remise en perspective historique, parce que ce n'est pas des phénomènes qui sont nouveaux, c'est des phénomènes du coup que j'appelle transfuges réactionnaires. Et pour vous redire enfin, avant de terminer et de passer aux questions, du coup, les notions qui sont développées dans le livre, si vous voulez que j'y revienne, il y a la notion donc de transfuge réactionnaire que je viens de vous dire. Il y a le concept de contrat de vigilance, donc qui est le pacte social dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a aussi l'idée de dark agency que je développe dedans pour parler de l'agentivité qu'utilisent ces femmes à l'extrême droite, qui est celle de rabaisser et de violenter des groupes sociaux inférieurs à elles en espérant pouvoir négocier une meilleure place pour elles au sein du statu quo. Voilà un petit peu pour la présentation. On va passer aux questions, comme ça vous n'allez pas vous endormir. Merci beaucoup pour votre écoute. Il y a une question par ici. Ouais. Ouais, je suis passée assez rapidement, je ne sais pas quelle heure il est. Oui, j'ai fait, c'était assez court.
Est-ce que je ne sais pas si...
Ah, vous pouvez me tutoyer.
Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est le concept de transfuge réactionnaire ?
Ouais, mais je ne l'ai pas expliqué, donc c'est normal. Okay. Alors, ce que je théorise dans le livre autour du concept de transfuge réactionnaire, c'est l'analyse de trajectoires individuelles de personnes qui étaient engagées de façon militante ou politique plutôt de façon libérale ou à gauche, et qui sont passées à l'extrême droite. Donc, par exemple, il y a 100 ans, on a eu le cas de suffragettes qui sont devenues ensuite nazies. Et pour à peu près les mêmes raisons qu'on a aujourd'hui des femmes comme Dora Mouto ou Marguerite Stern, qui étaient identifiées comme étant féministes et qui, par là, l'entrée de la transphobie, ont basculé à l'extrême droite la plus radicale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que dans ces trajectoires, il y a des similitudes. C'est pas n'importe qui fait un transfuge réactionnaire. Souvent, c'est des personnes qui sont de base assez privilégiées dans le groupe social qu'elles prétendent défendre, qui vont être très rapidement propulsées à des places de chef et qui vont ensuite être contestées par des personnes militantes autour d'elles, par exemple, ou qui vont avoir l'impression qu'elles sont un peu sur la redescente et qu'elles perdent du pouvoir, qu'elles perdent en influence, et donc qui vont être tentées par des courants d'extrême droite qui vont leur dire « tu aimes être un chef incontesté, tu aimes la verticalité et le fait de pouvoir user de la violence pour rester à ta place de pouvoir, ah bah ça tombe bien, c'est notre programme ». Évidemment, ça ne se fait pas en une fois, mais il y a toujours des signes, entre guillemets, et des choses qui sont avant-coureurs. Quand on regarde les suffragettes qui sont passées nazies, c'était des suffragettes qui étaient très obsédées avec l'idée qu'il fallait sécuriser les rues pour les femmes et qui étaient vraiment dans la lutte contre le harcèlement de rue, ça rappelle un peu d'autres personnes, et qui étaient aussi beaucoup dans la lutte contre la prostitution, mais avec toujours une vision extrêmement condescendante de classe sur les femmes des classes populaires, avec cette idée qu'elles allaient les hygiéniser, qu'elles allaient les rendre respectables. Et en fait, c'est là où il y a une porosité aussi, je fais une petite parenthèse, entre le féminisme très bourgeois qui peut ensuite amener à des formes encore plus conservatrices, c'est que dans le féminisme bourgeois et aujourd'hui bourgeois et néolibéral, il y a toujours cette idée que les femmes ne mériteraient pas quelque part des droits juste parce que ce sont des êtres humains comme les autres, mais parce qu'elles seraient foncièrement plus respectables et donc il faudrait donner des droits aux femmes parce qu'elles doivent être respectées, parce qu'elles sont respectables et que le problème c'est que les hommes pensent qu'elles ne sont pas respectables et pas parce qu'ils les exploitent. Je vais clarifier parce que je me rends compte que c'est pas hyper clair dit comme ça, vous inquiétez pas, j'essaie juste de trouver par quel angle je le prends. En fait, ça va être l'idée comment dire, désolée, j'ai un petit trou, j'espère que ça pourra être coupé pour la vidéo. Pour vous donner un exemple, par exemple Lucie Pétavin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, elle est essayiste. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Et dedans, elle dit que les femmes, quelque part, sont plus respectables que les hommes parce qu'elles font moins d'accidents de voiture et parce qu'elles ont moins de rapport avec la criminalité, ce qui est vrai. Mais en fait, quand bien même ce serait l'inverse, ça ne justifierait pas qu'elles aient moins de droits. Et en fait, il faut faire attention à ce type de discours, ça va être aussi beaucoup des discours qu'on va retrouver chez les féministes abolitionnistes, donc qui sont pour l'abolition du travail du sexe, sans prendre forcément en compte les besoins des travailleuses du sexe, qui, quoi qu'on en pense, ont besoin d'être accompagnées, avec cette idée que tant qu'il y aura des femmes qui sont dans le travail du sexe, eh bien, aucune femme ne sera respectable, et donc du coup, il faut que toutes les femmes soient respectées et soient des bonnes femmes pour qu'on ait accès aux droits. Alors qu'en fait, les hommes créent plutôt des stéréotypes de genre et nous maintiennent dedans pour justifier l'exploitation qu'ils font de nous. En fait, c'est dans l'autre sens. C'est pas parce que nous, on serait imparfaites qu'on n'a pas accès aux droits. C'est parce qu'on nous a mis dans des positions qui font qu'on est jugé imparfaite qu'on n'a pas accès aux droits. Vous voyez un peu la démarche. Et donc, il y a toujours dans les engagements féminins conservateurs cette notion de respectabilité qui est au centre et de se présenter comme étant le modèle de la femme respectable et donc celle qui peut donner des leçons aux autres, qui va être un petit peu le gardien le berger qui va ouvrir la voie aux moutons qui sont, elles, un petit peu plus écervelées, un petit peu plus bêtes, etc. En Angleterre, par exemple, il y a eu un féminisme, entre guillemets, qui se disait féministe, mais qui se disait ouvertement eugéniste, et donc qui luttait pour le droit de vote, mais le droit de vote seulement pour les femmes de classe bourgeoise, parce qu'ils considéraient que les autres étaient trop sauvages pour avoir un accès au droit et qu'il fallait d'abord qu'elles soient respectables pour ensuite prétendre à ça. Voilà, et on a eu aussi des cas un petit peu similaires, donc ça c'était en Angleterre, mais aux États-Unis, pour vous donner un exemple. Et donc, pour revenir à nos transfuges réactionnaires, ce que j'ai observé chez les femmes qui ont fait un transfuge réactionnaire, que ce soit il y a 100 ans ou aujourd'hui, c'est que ce sont beaucoup des femmes qui se disaient « je suis le modèle bêta de la femme à laquelle il faut ressembler, je suis la super femme, toutes les femmes devraient vouloir être comme moi, devraient être comme moi, je suis le sujet central. » Et donc, toute femme qui ne me ressemble pas, est un danger, donc à combattre, aussi parce qu'elle va dans cette vision-là. En fait, l'attention politique, médiatique serait un gâteau qu'on se partage, et donc si d'autres femmes différentes de moi prennent de la place avec leurs revendications, bah, je perds en pouvoir. Donc il y a toujours cette vision, non pas de libération collective, mais de concurrence entre personnes oppressées. Voilà, et donc, comme je le disais, il y a aussi beaucoup des affects autoritaires qui sont là dès le départ, et cette volonté de l'idée sans être contredite. Et après, il peut y avoir plein d'entrées. Par exemple, il y a eu beaucoup de transfuges réactionnaires au moment du Covid, avec toutes les histoires de passe sanitaire et donc de vaccins, avec cette idée que moi, l'État ne contrôle pas mon corps. Il peut contrôler le corps de mineurs qu'il met en centre de détention parce qu'ils n'ont pas de papier. Il peut maltraiter les enfants de la DAS. Il peut faire tout un tas de contrôles sociaux d'hommes qu'on contrôle au faciès, etc. Il y a un contrôle des corps qui existe. Mais moi, je suis censée être privilégiée et au-dessus de ça, donc je ne peux pas me vacciner. Voilà, il y avait un peu cette entrée-là. Il y a eu aussi l'entrée transphobe, avec cette idée que les femmes trans seraient une menace pour les femmes, et que les hommes trans seraient des traîtres qui auraient transitionné pour échapper au sexisme. Bon, c'est sûr que la transphobie, c'est mieux. Et bien sûr, on parle surtout des femmes trans, parce que on est toujours misogyne, et donc transmisogyne en premier. Et donc dans le livre, je développe aussi pourquoi il y a autant d'attention qui est portée sur les femmes trans, qui représentent très peu de personnes et qui sont très discriminées et qui vivent des violences très compliquées. Qui, pour rappeler quand même qu'en France, jusqu'en 2016, pour avoir des papiers cohérents avec son genre, il fallait être stérilisé de force. Hein. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que l'extrême droite s'attaque aux personnes trans, puisqu'en fait, on prend toujours les dernières arrivées sur le marché au droit et après on remonte. Donc les personnes trans, vous l'avez vu aux États-Unis, hein, les femmes trans, et puis après, hop, les femmes cisgenres. Et aujourd'hui, Donald Trump, pas Donald Trump, mais des personnes de son administration parlent de retirer le droit de vote aux femmes. Donc vous voyez, on remonte. Y a aussi l'entrée, évidemment, de la xénophobie, particulièrement sur les personnes arabes et noires pour des raisons d'ancrage colonial. Et également tout ce qui est islamophobie, qui sert à la fois d'ennemi intérieur et extérieur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais en fait, l'appareil national, il s'est beaucoup basé sur toujours la création d'une figure d'ennemi intérieur et la figure d'un ennemi extérieur. Longtemps, et c'est toujours le cas, on a eu l'antisémitisme qui a servi de ce rôle-là pour servir de figure d'ennemi intérieur, et c'est toujours le cas. Il faut comprendre qu'ils ont plein de candidats ennemis intérieur et ennemis extérieur. Ils en mettent un plus en avant parfois médiatiquement, mais en fait, il y en a plein d'autres, et quand il y en a un qui est abattu, on en prend un autre choix. Donc, il y a eu beaucoup la question de l'antisémitisme européen, de l'homophobie, évidemment, donc à la fois les hommes juifs et les hommes homosexuels qui étaient accusés de déviriliser et de dégénérer la race européenne, entre guillemets. Et l'ennemi extérieur, bien sûr, ça va être les corps des personnes qui ont été colonisées. Et aujourd'hui, on est dans un contexte post-colonial, on pourrait dire. Et donc, c'est toujours ça. Et la particularité des personnes musulmanes aujourd'hui, en France notamment, c'est qu'elles sont à la fois considérées comme ennemis extérieurs et ennemis intérieurs. Donc, vous avez le récit de extérieur de « ils vont nous envahir, c'est le grand remplacement » de Renaud Camus, et intérieur de « l'antrisme », etc. Vous voyez, l'islamophobie, pardon, permet de jouer sur ces deux tableaux-là, à la fois. Donc, ce qui est très utile. Mais il ne faut pas croire, l'extrême droite reste toujours aussi antisémite, toujours aussi homophobe, etc. Voilà un petit peu pour cette occasion de transfuge réactionnaire. Donc, il y a des transfuges réactionnaires qui vont rentrer par une des portes, que soit la transphobie, l'islamophobie, et puis après, continuer sur... sur le spectre. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Je viens de finir le bouquin Le coup de la virilité. Je n'ai pas eu du tout la même lecture que vous. Je suis un peu surprise, donc je vais le relire.
Voilà. Oui.
Il y a un moment donné, vous avez dit que quand la personne, elle dégringole de son piédestal, elle passe à l'extrême droite. Vous pensez que Marine Le Pen, qui est en train de dégringoler de son piédestal, elle va passer à gauche?
J'adore. Alors, est-ce qu'il y a vraiment Alors, il y a une blague, mais derrière, c'est une question qu'on m'a pas mal posée de est-ce qu'il y a beaucoup de transfuges progressistes ? Bon, je pense que dans le cas de Marine Le Pen, ça va être compliqué. L'ancrage familial est là, présent. mais on m'a beaucoup demandé s'il y avait des transfuges progressistes qui existent. Ils existent, mais déjà, souvent, on en entend moins parler. Parce que là où on... Ben non, mais en fait, c'est que... L'extrême droite, quelque part, considère toujours que les personnes plus à gauche sur le spectre politique sont du côté, entre guillemets, selon eux, du bien. Il y a quand même quelque chose de... Vu que c'est une prise de guerre, c'est, on l'a ramené... Enfin, elle disait du côté du bien, on l'a ramené du, chez nous. Enfin, il y a toujours un peu ça qui se joue dans leur narratif. Et quelque part, ils nous remettent un petit peu le fait qu'à gauche, il y a une lutte pour les droits humains, quoi. Donc pour eux c'est une prise de guerre, alors qu'à gauche, au sein des personnes qui militent à gauche, dire qu'on a été d'extrême droite, c'est vu parfois comme tabou ou honteux. Et ensuite, des fois, il y a aussi le cas le plus courant, c'est qu'il y a bien des personnes qui reviennent. J'ai pas parlé, mais dans le livre, je parle des tradwives aussi. Donc il y a par exemple des tradwives qui reviennent sur leur choix, qui vont pas non plus passer complètement de l'autre côté. Donc ils vont être en mode, certes, les féministes avaient raison parce que je me suis fait taper, parce que j'ai perdu économiquement des années sur mon CV, que maintenant je suis isolée et que c'est très difficile pour moi socialement de me réintégrer, et donc je regrette tout ça, et elles avaient raison. Mais bon, les femmes trans, quand même, vous voyez un petit peu, il y a souvent des transfuges progressistes qui n'ont pas tout à fait fini. Donc je pense que pour Marine Le Pen, le chemin est long. Voilà.
Moi, j'avais une question. Vous avez beaucoup abordé la notion de transfuge. Et alors, du coup, c'est pas tout à fait pareil, mais de ce que j'ai compris sur... de ce que j'ai entendu dire sur les femmes dans le nazisme dans les années 40... Il y a eu beaucoup de femmes apparemment qui se sont intégrées dans le nazisme parce que aussi ça le faisait monter en classe sociale.
Ouais.
Et là, vous avez mentionné le fait que c'était plutôt une classe bourgeoise qui se présentait comme fémonationaliste. Est-ce que vous avez des explications sur cette raison-là ? Est-ce que vous avez aussi vu des mouvements parfois qui étaient aussi des transfuges de classe ?
Ouais. C'est une très bonne question, merci. Oui, justement, dans le livre, je reviens un petit peu sur les années 40 et le fait que pour certaines femmes, accéder au nazisme a été une ascension sociale, en ayant notamment des postes de fonctionnaires qui leur étaient pas accessibles auparavant, donc institutrices, infirmières, également dans l'accompagnement des familles, etc., qui étaient des places qui étaient enviées. Et en échange, justement, c'est aussi les femmes qui ont le plus tué. Donc les infirmières, celles qui ont commis les premiers meurtres de masse sur les personnes en situation de handicap, les professeurs, je parle des femmes, enfin celles qui ont le plus tué parmi les femmes, les professeurs des écoles qui triaient les élèves, les assistantes sociales qui triaient les familles et les mères qui n'étaient pas assez bien, etc. En ayant justement accès à cette promotion sociale, on peut dire que c'est un peu différent aujourd'hui, puisque déjà on n'a pas l'extrême droite au pouvoir, c'est pas tout à fait la même insertion professionnelle, mais par contre il y a quand même des enjeux de pouvoir qui peuvent se jouer à l'extrême droite. Typiquement, je sais qu'en Bretagne, il y a beaucoup d'endroits où le RN met des femmes très jeunes sur ses listes, donc des femmes qui ont 18 ans, 20 ans, qui sont en tête de liste municipale là pendant une semaine. Si aujourd'hui vous voulez travailler dans un média ou que vous voulez faire de la politique, c'est plus facile de rentrer. Mais par contre, c'est toujours à court terme, parce que quand ça aussi, je l'aborde pas mal dans le livre, quand il n'y a plus besoin d'elle, en général, ça finit pas très bien. Voilà. Mais pas toutes, certaines s'en sortent, mais pas toutes. Donc voilà. Donc à court terme, effectivement, il y a des femmes qui peuvent avoir une ascension sociale par cette adhésion-là. Souvent, elles viennent plutôt de la classe moyenne, mais il peut y avoir aussi des femmes de classe populaire. Et ensuite, par contre, il y a toujours un coût, en fait.
Bonjour. Je reviens juste sur une question que vous avez soulevée vous-même pendant votre présentation, qui est celle de pourquoi les femmes ne sont pas toutes féministes.
Oui. Alors, pourquoi les femmes ne sont pas toutes féministes ? Il y a trois piliers que j'identifie dans le livre. Le premier, c'est parce que j'appelle, c'est parce qu'il s'appelle la gnotologie genrée. Bon, c'est un mot très compliqué pour dire simplement que on organise l'ignorance des gens. Par exemple, beaucoup de personnes ont découvert en 2017 qu'elles avaient un clitoris, voilà. Alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu nous apprendre à l'école, mais c'est un choix politique de ne pas l'apprendre à l'école. Donc ça, c'est ce savoir-là, ou ce non-savoir, c'est quelque chose qui raconte politiquement où on en est. Donc je reviens sur le fait que pendant très longtemps, les femmes ont été interdites des facs, par exemple, et donc tout ce qui était le pouvoir considéré comme, le savoir considéré comme légitime, elle ne pouvait pas le produire et elle ne pouvait pas non plus y avoir accès. Et donc, le savoir qu'elle produisait elle-même était vu comme forcément pas scientifique, non officiel, et donc des choses de bonne femme sans intérêt. Et aussi, y avait pas, les choses n'étaient pas étudiées selon leur propre prisme. Ce qui fait que, par exemple, quand les femmes sont arrivées à la fac et ont commencé à créer les études de genre, etc., elles ont déjà passé beaucoup de temps à revenir sur ce que les hommes avaient écrit sur elles et à dire ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Et ensuite seulement elles ont pu commencer à, par exemple, critiquer aussi les hommes en tant que sujet social et politique, lui-même ancré, puisqu'il y avait beaucoup de théories sur les femmes, la femme, qu'est-ce que la femme, mais pas beaucoup sur l'accès au corps. Par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'études médicales sur comment mieux soigner les personnes sexisées, et il n'y avait pas non plus de critiques. Les masculinity studies, par exemple, c'est extrêmement récent. Voilà. Donc la première partie, c'est sous-partie plutôt, c'est sur justement comment, en fait, déjà elles savent pas, se constituer en tant que classe sociale, elles savent pas que ce qu'elles vivent n'est pas normal, elles sont isolées, y compris dans leur foyer. J'insiste beaucoup sur le fait que on questionne pas assez combien l'architecture elle-même crée des rapports où on sait qu'il y a beaucoup plus de féminicides en ruralité, parce que plus on est isolé et plus on est en danger. Et donc la première partie, c'est parce qu'on ne sait pas et qu'on est isolé. La deuxième partie, c'est parce qu'on voit ce qui arrive aux femmes qui dérogent de la règle. La plupart des violences sexuelles, on n'est pas toutes égales face aux violences sexuelles. Dès l'enfance, les petites filles lesbiennes et bi, par exemple, sont beaucoup plus à risque d'avoir des violences pédocriminelles et de l'inceste, même sans avoir fait de coming out. C'est juste parce qu'elles sont considérées comme menaçantes pour les normes de genre, et donc plus à même de vivre de la violence. Pareil pour les femmes non blanches, qui subissent aussi beaucoup plus de violences, les femmes en situation de handicap, etc., etc. Et donc il y a cette idée que si on déroge de ce qui est attendu de soi, si on sort des frontières de genre, on va être violenté, puni, et donc c'est dissuasif. Et la troisième raison, selon moi, c'est aussi qu'il n'y a pas tous les systèmes de pouvoir ne fonctionnent pas seulement sur l'ignorance et le bâton, ils fonctionnent aussi avec la carotte, avec l'idée qu'il y a un monde juste et que si on fait tout bien, eh bien, on sera récompensé. Donc, dès le plus jeune âge, on nous parle du prince charmant et on nous dit qu'on sera très heureuse si on suit ce narratif-là. Et donc, il y a quand même pour nombre de femmes l'idée qu'il y aura une forme de reconnaissance sociale qui leur sera rétribuée si elles font ce qu'on attend d'elles. Et souvent, ça déchante, mais ça déchante tard. Et aussi, il y a cette idée qu'une fois qu'on a fait tout ce chemin-là, une fois qu'on a intériorisé toutes ces normes, c'est très coûteux et très douloureux de s'en défaire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont vécu, qui ont les années derrière elles et qui vont elles-mêmes shamer une femme sur sa tenue alors qu'elles l'ont vécu et qu'elles en ont souffert, mais en se disant « moi j'ai accepté, moi je me suis contrainte, moi j'ai... » Donc il faut que les autres le fassent. C'est un petit peu comme les personnes qui, aux États-Unis, qui refusent qu'on en arrête avec la dette des étudiants, parce qu'ils sont en mode « moi j'ai payé super cher mes études, j'ai travaillé très dur pour rembourser, ça a été extrêmement difficile, je veux que les autres vivent pareil ». Donc c'est une certaine politique du seum, mais ça marche. Voilà, donc c'est un peu les trois grands piliers que j'explore dans le livre.
Bonjour.
Bonjour.
Juste avant ma question, pendant que je lisais le livre, j'ai regardé aussi, enfin pas en même temps parce que c'est impossible, mais le documentaire sur la chaîne YouTube d'Arte, j'ai oublié le nom du réel, je suis désolée, qui s'appelle Les femmes dorées, donc le parti néo-nazi d'extrême droite grecque, et c'est vraiment un cas d'école de tout ce qui est décrit dans le livre sur les femmes d'extrême droite. Donc vraiment, allez le voir tant qu'il est encore en ligne. Enfin, si vous avez du mal avec la théorie, vraiment c'est un cas pratique, mais incroyable. Et du coup, ma question, c'était, quand tu parles des trois typologies de femmes fémonationalistes et d'extrême droite, il y a Némésis, donc, qui est la femme citadine, blanche et tout. Et je me demandais qu'est-ce qu'il en est en ruralité, parce qu'on parle beaucoup de la ruralité, de la montée de l'extrême droite en ruralité, et on présente toujours ça un peu comme un monobloc. Dans quelle mesure il y a une différence genrée peut-être entre l'extrême droite, enfin féminine, masculine en ruralité, ou alors est-ce que ça s'exprime plus d'un côté que de l'autre ? Voilà.
C'est une question qui est un peu compliquée. Déjà, moi, je ne suis pas spécialiste des ruralités, donc je pense que c'est quand même des sujets qui méritent vraiment une spécialisation très précise. Et il y a des sociologues qui croisent genre et ruralité. Et ensuite, moi, j'aime pas. Enfin, je trouve que c'est très compliqué parce qu'il y a quand même des cultures locales qui sont très différentes d'un endroit à l'autre. On ne peut pas dire juste la ruralité. Ça dépend de l'ancrage associatif, de l'ancrage militant qu'il y a. Il y a des endroits où il y a un ancrage associatif et militant fort et où malgré le peu de densité, il se passe des choses, plus ou moins bien, mais il se passe quand même des choses. Je pense par exemple en Creuse, même en Creuse, il y a un plateau qui est assez anarchiste, qui est dans le viseur de Darmanin depuis très longtemps pour ça. Voilà. Et en même temps, il y a l'extrême droite qui cohabite aussi, évidemment. Et puis il y a des endroits qui sont des bastions conservateurs pour plein de raisons historiques, donc c'est assez compliqué de généraliser. Ce qu'on peut dire, c'est que parfois c'est plus compliqué en ruralité de faire émerger des cadres militants, parce qu'il y a la question du fait qu'il n'y a pas beaucoup de transports publics qui font qu'on peut se réunir, et du coup justement en fait il y a les féminismes, c'est une prise de conscience collective, c'est une émancipation collective. Donc si on est entravé pour se réunir, pour échanger, c'est plus compliqué. Il y a aussi parfois la peur d'être vue comme la féministe du coin. Il y a aussi une étude qui est sortie là récemment qui démontre que les endroits où les PMU, les centres associatifs, etc. ferment, l'extrême droite arrive d'autant plus au pouvoir. Et ça, je pense que c'est pas forcément genré particulièrement, bien que les femmes ayant encore moins accès aux structures, par exemple les terrains de foot, etc. Enfin, tout ça, c'est fait plutôt pour les hommes, donc il y a encore moins d'espaces de rencontre pour les femmes. Donc elles sont encore plus isolées. Il y a quand même, plus il y a d'isolement, moins il y a de solidarité et de choses qui sont faites en commun, plus c'est un terrain favorable à l'extrême droite. Et ensuite, on voit aussi que le vote des femmes et des hommes à l'extrême droite, ça va être beaucoup les milieux périurbains et avec classe moyenne, petite bourgeoisie, avec cette idée qu'on peut dégringoler dans l'échelle et on ne veut pas, et du coup périurbain, parce que des fois on croise par exemple des populations non blanches et on les croise toujours de loin, on n'habite pas avec elles, du coup ça nourrit de grands, grands fantasmes. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, c'est que les endroits où il y a le plus de mixité sociale, c'est les endroits où ça vote le moins à l'extrême droite. Donc bizarrement, les populations qui sont censées vivre l'insécurité, vivre dans les quartiers difficiles et chauds, sont les quartiers les plus à gauche. Donc voilà, on en conclut ce qu'on en conclut, mais voilà.
Bonjour, je suis juste devant.
Oui, en fait je ne vous vois pas trop avec les lumières, mais... Okay.
Moi j'ai un peu du mal à comprendre comment des femmes qui font l'expérience de leur pouvoir d'agir à travers une lutte féministe, enfin même si elle est fémonationaliste, elles peuvent accepter la domination des hommes, particulièrement à l'extrême droite, où les rapports de genre sont hyper exacerbés. Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur... je ne sais plus, tu as parlé genre de contrat de vigilance, mais peut-être c'est pas ça, mais en gros, qu'est-ce qui fait que les femmes d'extrême droite acceptent autant d'être dominées alors qu'elles font l'expérience d'une militance qui leur donne quand même l'impression... tu disais même, elles manient les armes ou elles font de la boxe ou je ne sais pas quoi, mais enfin... j'ai l'impression que ça leur donne des perspectives d'émancipation. Donc pourquoi est-ce qu'elles font ce choix-là ? J'ai beaucoup de mal à comprendre ça.
Il y en a beaucoup qui ne pensent pas que le statu quo peut changer et que la société peut changer. Donc elles se disent, dans tous les cas, je vais vivre ce sexisme-là. Donc autant moi-même exercer de la violence sur d'autres groupes. Mais après, je pense que c'est compliqué. Effectivement, Némésis... par exemple, dans le cas d'Alice Cordier, elle dit très frontalement que son père refusait qu'elle fasse de la politique, refusait qu'elle fasse de la boxe, et qu'en fait, elle a utilisé ça, elle a utilisé Némésis pour avoir une place en politique et une place de chef qu'elle aime beaucoup. Et elle le dit par ailleurs qu'elle aime l'idée d'être une chef sur des femmes plus jeunes. Il y a une certaine tolérance aussi du fait que tu peux exercer du pouvoir sur les femmes. En fait, tu peux exercer plus facilement du pouvoir sur un considéré comme inférieur à toi, vu que l'extrême droite a une vision des choses très hiérarchisée. Donc je pense qu'il y en a qui trouvent une forme de compromis dans le fait d'exercer cette violence-là, mais, et dans le fait de, d'exercer de l'autorité et du pouvoir, puisqu'elles se disent que de toute façon le sexisme fait partie de l'entrée de gamme de départ et qu'elles le vivront toujours. Voilà. Après, il y en a qui vont pas bien. Et même à l'extrême droite, c'est un sujet tabou, mais il y a pas mal de suicides parmi les militants d'extrême droite, puisque une fois qu'on a fini d'être consumé par la haine, que la haine n'est plus aussi, ne nous fait pas tenir autant debout, bah, qu'est-ce qui reste quand on a peur de tout, quand on pense, enfin quand on a une vision du monde extrêmement, extrêmement violente, en fait, bah, souvent il peut y avoir un crash psychologique assez fort. Et on a eu le cas de personnes comme Thaïs Descuffon, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était porte-parole de Génération Identitaire et qui a fait une vidéo que je décrypte sur YouTube, vous pouvez aller voir. Je reviens sur toute sa vidéo où elle dit que pour elle, c'est compliqué, les hommes de son camp, et que vraiment, alors que pourtant, enfin, genre, faut se dire que Thaïs Descuffon, c'est la personne qui a le discours le plus masculiniste possible, genre, vraiment, elle trash tout le temps les féministes de droite, elle dit que ça n'existe pas, même les tradwives ne sont pas assez soumises pour elle, parce qu'elles savent juste faire des coquillettes et elles exploitent leurs hommes, enfin, vraiment, on est à un niveau, et pourtant, elle dit que c'est très compliqué, et du coup, elle a arrêté de faire du autant politique, parce que justement, c'était inadmissible aux yeux des hommes d'extrême droite qu'une femme soit un peu électron libre avec sa propre plateforme, en plus plateforme qu'elle rendait payante par des discords payants et tout. Ça, c'était inadmissible. Maintenant, elle s'est tournée plus vers le lifestyle. Et en fait, elle essaye de recruter par le lifestyle, le contenu mode, beauté, etc. Ça lui permet d'être moins embêtée par les hommes, parce qu'elle fait moins du politique, domaine quand même à la base réservé aux hommes dans ces conceptions-là. Et aussi parce que ça lui permet toujours de passer pour la petite blonde aux yeux bleus, gentille. Et ça, j'ai peut-être pas assez insisté. Mais en fait, c'est ce que nous prouvent ces groupes-là, c'est à quel point c'est important dans notre vision de pas avoir un regard essentialiste, paternaliste envers les femmes. Puisqu'en fait, sinon, si on a cette vision que défend Lucie Pétavin, pour revenir sur elle, que les femmes sont plus honorables parce qu'elles sont moins violentes, parce qu'elles sont moins violentes dans la société. Donc les femmes seraient moins violentes. On s'en tient là. On ne dit pas quelles femmes sont moins violentes, comment, pourquoi. En fait, elles utilisent cette brèche-là en disant « Regardez, les femmes ne sont pas violentes. Nous, on n'est pas violentes. Les féministes disent qu'on n'est pas violente, donc on ne peut pas exercer de la violence. Donc tout ce qu'on fait, c'est doux. » Et médiatiquement, j'étais quand même surprise de voir à quel point, autour de l'affaire de Quentin Dérenque, là, donc vous avez vu, le néo-nazi qui est mort à Lyon, jour 1, les médias, beaucoup de médias ont repris le discours de Némésis sans aucun recul critique. Avec cette idée, et je pense pas qu'ils l'auraient fait pour un autre groupuscule masculin d'extrême droite. Je pense qu'ils auraient mis un peu plus de pincettes, même si on est quand même dans une décomplexion assez grandissante, hein, on va pas se mentir. Mais ça marche, cette idée, cette vitrine qu'elles mettent en avant de regarder, on est en jupe, on est jolie, on est bien, on sourit, on peut pas être violente. Oui, d'accord, il y a quelques photos qui traînent où on fait des saluts nazis, oui, d'accord, on aime bien la boxe et tirer à l'arme à feu, mais quand même, regardez, on met des jolies robes longues. Enfin, il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'aussi je pense que un des autres pièges dans lequel on tombe parfois en tant que critique du genre ou féministe, etc., c'est cette idée que comme je reviens, oui, les femmes effectivement sont moins incriminées. Il y a des fois des raisons qui font qu'elles ne vont pas en prison parce qu'elles sont mères et qu'on n'a pas envie de placer les enfants à la DAS, mais surtout parce qu'en fait on n'exerce pas de violence parce qu'on est extrêmement opprimé, parce qu'on est extrêmement surveillé, parce qu'on est extrêmement quadrillé. Et en fait, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faudrait qu'il y ait, je vais le dire un peu de façon provocatrice, mais il faudrait qu'il y ait plus de criminalité féminine, en fait. Ça montre juste qu'on est extrêmement soumise. Et c'est pour ça que je m'oppose à des visions comme Lucie Pétavin, parce que si on suit la logique de les femmes sont supérieures parce qu'elles font moins de délits, ça voudrait dire, si on suit cette logique-là, qu'il faudrait que les hommes soient tout autant soumis que les femmes, notamment à l'ordre social. Donc, par exemple, parce qu'elle met souvent, parce que je ne parle pas que de son livre, hein, je parle aussi de ses interventions médiatiques, elle met au même niveau tout type de violence. Par exemple, elle va dire la violence des antifas et la violence des fascistes, c'est la violence des hommes. Elle dit, ah, oui, mais il y a une violence qui est quand même défensive pour protéger justement les personnes LGBT, les féministes et les antiracistes qui font des réunions. On ne peut pas le mettre au même niveau, même si je ne dis pas que les antifas ne rentrent pas taper leurs femmes le soir. Hein, je dis pas. Enfin, voilà, mais on ne peut pas mettre au même niveau les deux. Et surtout, il faudrait que les femmes puissent exercer de la violence, que s'il y a des fachos qui veulent venir leur taper la gueule, bah oui, on devrait pouvoir se défendre, on a le droit de se défendre. Et c'est pas quelque chose de mal. Et ça, je pense qu'en fait, on avancera sur l'égalité aussi quand les femmes auront le droit de se défendre, d'exercer de la violence, et que ce sera pas vu comme quelque chose qui leur enlève de l'humanité parce qu'elles seraient moins femmes, entre guillemets. Voilà.
Bonsoir.
Oui.
Par là.
Oui.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention et votre ouvrage que j'ai lu dans le cadre de mes propres recherches sur QAnon, donc qui est une théorie complotiste d'extrême droite aussi. Et dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse notamment à l'impact de la socialisation primaire, y compris pas seulement à travers les discours explicite, voilà, notamment comme vous avez pu dire dans le cas de Marine Le Pen qui a grandi dans un milieu d'extrême droite, etc., mais aussi à travers en fait les rapports de pouvoir qu'on subit depuis l'enfance et notamment dans le cadre familial. Et pour le moment, les premiers résultats de mes travaux confirment qu'il y aurait un lien entre l'adhésion à QAnon, qui postule l'existence d'un état pédocriminel, enfin d'un état profond aux mains de pédosatanistes, qui se trouvaient essentiellement des élites démocrates ou de la gauche états-unienne, et puis ensuite bon, ça s'est diffusé mondialement avec des recompositions locales, bref. Et dans le cadre de mes recherches, je suis tombée notamment sur un ouvrage que j'ai trouvé particulièrement éclairant sur le fait que pour le coup, le fait d'avoir subi des violences physiques, des maltraitances physiques au cours de l'enfance était un facteur de prédiction de l'adhésion en fait à des politiques conservatrices et réactionnaires vraiment marquées, et pas seulement, c'est-à-dire même quand on contrôle l'idéologie politique des parents. Donc y compris si on a été élevé dans un milieu plutôt de gauche, plutôt ouvert, si, et vous avez cité plusieurs exemples, je suis éclatée de fatigue, dont j'arrive plus à me souvenir de qui, mais qui a eu des parents de gauche et qui, c'est...
Giorgia Meloni.
Ah voilà, Meloni, merci beaucoup.
Un père de gauche, mais une mère de très à droite.
Oui, c'est ça. Mais où, en fait, là, on avait des cas de personnes qui ont grandi dans un environnement de gauche, et j'ai quelques exemples aussi voilà, dans mes données, qui montrent qu'effectivement, c'est aussi une socialisation à la violence. Ce qui ne veut évidemment pas dire, là, dans ce que je suis en train de dire et ce qui vient après, que ça minimise aucunement la dimension à part entière du racisme, de la place du facteur de la colonisation, etc. Mais en vous écoutant, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi au niveau de la socialisation secondaire. En fait, quand vous parliez des transfuges réactionnaires, je me suis dit, ah, mais il y a une sorte de continuum avec notre socialisation secondaire en tant que femme, où on est éduquée, on grandit dans un contexte où tout est fait pour nous mettre en compétition les unes avec les autres, et notamment autour de cette notion de respectabilité, et où on va se servir des femmes qui ont une réputation un peu comme d'un paratonnerre, en espérant que si c'est elles qui sont pas respectables, la foudre va leur tomber dessus. Et c'est pas juste, comment dire, c'est pas juste des fantasmes. Pour le coup, il y a le collectif féministe contre le viol qui a démontré que dans certains cas, en fait, les garçons font courir des rumeurs sur les filles avant de passer à l'acte pour les agresser sexuellement ou les violer. Et je me suis dit, ça ne veut pas dire que tout est explicable par la dimension patriarcale. Évidemment qu'il faut l'articuler aux autres rapports de domination, à commencer par le racisme et les LGBT-phobies. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui doit aussi être expliqué, pas juste par, entre guillemets, la politique politicienne, mais comprendre comment les rapports de domination ordinaires aussi structurent notre vision des rapports de domination et du pouvoir, y compris du pouvoir institutionnel. Et je finis là-dessus parce que ça m'a, enfin voilà, c'est assez peu dit. J'ai pas lu encore les études sur les dernières élections, mais en 2020 en tout cas, les femmes blanches qui n'étaient pas en couple avaient moins voté Trump que les femmes blanches qui étaient mariées à un homme qui votait Trump. Ça avait assez peu circulé, ça a été assez peu interrogé, de la même manière que le fait que les hommes noirs ont voté beaucoup plus Trump que les femmes noires aussi. Et donc voilà, d'avoir vraiment une approche intersectionnelle de ces questions-là me paraît cruciale, et je vous remercie pour le travail que vous faites dans ce sens-là.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait une question ou si c'était juste...
Des partages.
Ouais, non, mais c'était très intéressant, merci.
Si ça vous évoque des choses de vos propres recherches, ouais, aussi, en plus de ce que vous avez déjà dit.
Mais il y a toute la partie sur le pouvoir parental qui va vous intéresser, je pense. avec notamment bah, les enfants après par mimétisme. Et nous-mêmes, nous sommes bah, modulés par la culture, l'environnement, l'histoire, etc., qui créent des rôles sociaux qu'on va ensuite, des modèles sociaux, et qu'on va reproduire sans tout intellectualiser, mais juste parce qu'on est des animaux sociaux et par mimétisme, on comprend ce qui se passe, quoi. Même si des gens ne se conforment jamais, notamment les personnes LGBTQIA, qu'on ne peut pas séparer de la lutte contre le sexisme, parce qu'elles sont une menace pour l'ordre du genre, et donc elles sont punies pour ça. Voilà. Il y a une...
Oui. Oui, bonsoir, j'ai une petite question, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre un peu de l'intensification de la lutte antifasciste, il y a un certain nombre de questions qui s'intensifient au niveau des luttes. Et est-ce que, selon toi, on pourrait porter l'idée que l'un des meilleurs antifascismes, ce serait le féminisme, autant pour les méthodes et la grille d'analyse qu'il défend, que pour le monde qu'il entend construire et pour celui aussi qu'il voudrait défaire ? Politiquement, est-ce qu'il ne faudrait pas en faire un véritable mot d'ordre ?
Je pense qu'en tout cas, l'antifascisme a besoin de féminisme, notamment parce qu'on le disait tout à l'heure, plus on est accoutumé par la violence, plus on a des chances de la reproduire. Il y a quand même des ouvrages qui montrent très bien et des études qui montrent très bien que, par exemple, les hommes qui ont combattu dans des fronts de libération, même si c'était des causes justes, ou des hommes qui ont résisté à l'occupation nazie et qui étaient antifa, hein, littéralement, avaient tendance à pouvoir reproduire cette violence-là sur leurs enfants, sur leurs femmes, parce qu'en fait, on est pris nous-mêmes dans un cycle de la violence et c'est compliqué de la décharger. Et je sais que pour mon premier ouvrage qui s'appelait « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?», j'avais fait des formations à la virilité, à l'hétérosexualité comme régime politique et aux masculinités à des groupes d'antifa d'hommes qui m'avaient sollicité pour le faire. Et j'avais trouvé ça hyper cool d'avoir ces mecs de 2 mètres de haut qui arrivent en mode « Oui, je ne suis pas hétéro, ou peut-être pas, allons en discuter ». Donc je pense que l'antifascisme a vraiment besoin de féminisme dans ses pratiques et que s'il y a des, pour traiter même des enjeux qui pourraient aussi concerner des femmes. Enfin, s'il y a des femmes antifa qui se retrouvent à devoir se battre, bah, il y a aussi ces questions de comment on décharge la violence. Mais je pense qu'il y a des réponses qui sont du côté des féministes et qu'il y a à lier ces deux luttes-là. Je sais qu'il y a des collectifs antifascistes qui essayent de mettre de plus en plus de femmes porte-parole, qui essayent de faire attention, mais il y a encore un travail à faire, hein, je pense. Et aussi pour les femmes de s'autoriser à se dire qu'elles peuvent occuper ce rôle-là, il y a du travail. Après, est-ce que le féminisme est le seul mot d'ordre ? Je pense pas, mais je pense que c'est un mot d'ordre important. Mais je crois pas qu'on ait besoin d'un seul mot pour qu'il soit un espèce de parapluie qui comprenne tout. Mais par contre, je pense qu'on a besoin de comprendre à quel point les systèmes de domination sont imbriqués et qu'on ne peut pas avoir une libération des femmes sans en finir avec le capitalisme, qu'on ne peut pas avoir une libération des femmes sans en finir avec le racisme, puisque, comme je le disais, le racisme repose sur des enjeux de genre et le genre sur des enjeux racistes. Enfin, les deux se fortifie. On ne peut pas en finir avec ça. En fait, on est obligé d'être dans une forme de lutte de tous les systèmes de domination en même temps, ce qui paraît vertigineux, mais que font très bien les différentes personnes qui luttent à travers le monde et qui l'ont compris. Moi, j'ai plus envie, par exemple, qu'on aille vers quelque chose d'internationaliste. Je trouve qu'on manque encore de liens. Beaucoup en ce moment. Moi, j'ai envie de rencontrer plus des chercheuses, des journalistes du monde entier, qu'on parle notamment entre populations où il y a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, etc. Et c'est un peu l'enjeu du média qu'on a lancé hier, qui s'appelle Problématique, avec un K. Le but étant de pouvoir interviewer des personnes dans différents pays pour comprendre les outils de lutte qu'ils ont mis en place et pour pouvoir s'en inspirer. Je pense qu'on a besoin de liens, en tout cas, dans la période dans laquelle on est.
Je sais pas quelle heure il est. Merci de faire le lien avec l'internationalisme, parce que j'avais une question là-dessus. Le 8 mars, j'ai vu un tweet de l'armée israélienne où c'était une femme qui disait « En tant que femme, je ne suis pas là pour regarder l'histoire, je suis là pour la faire », et avec après tout le logo de l'armée israélienne derrière. Et du coup, donc l'État israélien, c'est un État d'extrême droite. Je ne suis pas assez connaisseur pour savoir s'il est fasciste ou pas, mais et qui met vachement en avant cet aspect fémonationaliste. Est-ce que tu sais si là-bas, ça se traduit par par du recul pour les droits des femmes ou par un renforcement du sexisme intérieur ou pas? Enfin, est-ce que c'est une question?
Oui, toujours. Sur laquelle t'as des éléments ? Mais de toute façon, les colonies de peuplement, les sociétés qui sont militarisées, il y a toujours un coup en premier pour les femmes. Certes, il y a des femmes israéliennes dans l'armée qui participent à ce qui se passe aujourd'hui dans toute la région et à Gaza, mais il faut aussi comprendre qu'elles ne sont pas du tout égales aux hommes. Hein, c'est pas vrai. Enfin, il y a une espèce de mythe qu'il y aurait, voilà, les femmes israéliennes seraient égales des hommes israéliens, mais c'est pas du tout le cas. C'est une société qui est assez conservatrice à bien des égards. Si une soldate, par exemple, tombe enceinte, elle peut arrêter son service militaire obligatoire, alors qu'un homme, bah, s'il est papa, il doit continuer. Tu vois. Petit exemple. Et il y a pas mal de recherches, si vous cherchez sur Cairn, vous allez trouver pas mal d'articles. Il y a eu beaucoup de recherches sur la place des femmes inégalitaires dans la société israélienne, et notamment comment le service militaire renforce les inégalités de genre. Voilà, et j'en parle un petit peu aussi dans Les Vigilantes de justement le discours pro-israélien, le rapport de la féminité des armes, parce que vous avez peut-être vu aussi ces images sur les réseaux sociaux de soldates israéliennes très sexualisées, très érotisées pour recruter et donner envie. C'est pas propre qu'à Israël, hein, on a pareil du côté russe, on a pareil dans d'autres armées, mais voilà, le corps des femmes comme vitrine de recrutement par les idéologies militaristes, réactionnaires, nationaliste, etc. C'est assez courant et ça repose toujours sur une réification des femmes qui est sexiste. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, peut-être.
Alors, je vais faire court. Tu parlais que les personnes queer étaient aussi concernées du coup par le sexisme, etc. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'homonationalisme ?
Oui, complètement. Dans le livre, il y a une partie qui est sur l'homonationalisme que je n'ai pas développée là. Donc l'homonationalisme, c'est comme le fémonationalisme, c'est l'utilisation d'une rhétorique pro-LGBTQIA à des fins impérialistes, coloniales, réactionnaires, racistes, etc. C'est quelque chose qui est très fort, hein, faut savoir, qui marche en plus, parce que ce que je n'ai pas dit peut-être assez aujourd'hui, c'est que ces rhétoriques fémonationalistes et homonationalistes, elles fonctionnent. Avant, il y avait ce qu'on appelle un gender gap, donc le fait qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes dans le vote à l'extrême droite. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, dont la France, cette différence n'est plus. Il y a autant de femmes qui votent Rassemblement National que d'hommes. Jordan Bardella est en tête des intentions de vote dans la communauté LGBTQIA. Je précise néanmoins qu'elles sont beaucoup moins... Enfin, que les personnes LGBTQIA votent en moyenne beaucoup moins pour l'extrême droite que le reste de la population, mais n'empêche que Jordan Bardella est quand même premier, et en deuxième, c'est Mélenchon, qui lui augmente énormément aussi dans les intentions de vote des personnes LGBTQIA. C'est un sondage qui est sorti la semaine dernière dans Têtu. Mais il y a quand même cette progression-là qui est observable, autant du côté des LGBT que du côté des femmes. Et c'est parce que leur stratégie fonctionne. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de s'outiller, de comprendre ce qui se joue, d'être solide sur ses appuis, parce que de toute façon, l'extrême droite, quand elle a une stratégie électorale, peut gagner que si les femmes votent pour elle, hein, parce que c'est quand même 50% de la population. Et pareil, l'électorat LGBT, ça représente plus de 10% de la population réunie, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc c'est quand même des choses qui sont importantes à prendre en compte, et l'homonationalisme, ça a été une notion qui a été forgée par une sociologue, je ne sais pas si elle est sociologue, théoricienne, on va dire, américaine, qui s'appelle Pouar, et le livre vient d'être traduit en français, je crois, le livre Homonationalisme, son livre, il me semble qu'il vient d'être traduit, donc vous pouvez le lire, il est très intéressant, et il retrace du coup les politiques homonationalistes, surtout des États-Unis, depuis les attentats du 11 septembre, voilà, avec cette idée de camp du bien et du camp du mal, de l'axe du mal, etc., de l'axe de libération pour la démocratie. Voilà. voilà. Peut-être cette fois, je prends une dernière question.
Bon, bah alors, du coup, il y a une dernière question là-bas. Mais on sait voilà. Pas si.
Parce qu'après, on va pouvoir vous libérer. Et après, je le redis, mais du coup, je signe les livres et on peut discuter individuellement pendant Exactement. Que je signe après. voilà.
Bonjour. En fait, c'est aussi une question de ce que nous, on peut faire. C'est surtout par rapport aux dissonances cognitives quand on commence à parler justement à des personnes qui se sentent plus ou moins opprimées, qu'on explique. Enfin, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle où on explique, ben oui, mais en même temps, regarde ça, regarde ci, peut-être que ça pourrait t'aider à réfléchir. Mais tout de suite, dès qu'on commence à donner des outils, ben les personnes en fait, elles vont être totalement réfractaires en disant « Non, mais je ne suis pas une féministe » ou « Je ne suis pas ces trucs-là ». Comment est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas paraître directement avec les grosses griffes, comme si on était des féministes méchantes et tout, mais juste aider, donner des outils sans que ça soit quelque chose de négatif pour celles et ceux qui ne sont pas habitués et qui pensent vraiment que c'est quelque chose... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais concrètement, pour ne pas les brusquer.
Je pense que la première chose, c'est toi-même faire tes engagements, militer, être dans un collectif, et parler de ça de façon... De parler en mode, oui, bah, hier, j'ai fait ci, j'ai été en manif. Mais voilà, sans forcément expliquer tes idées et attendre soit que, ça, enfin, que la curiosité arrive de l'autre côté ou quoi. Mais juste déjà... Faire ces choses-là et ne pas s'en cacher, c'est déjà beaucoup, parce que ça va attirer la curiosité ou petit à petit questionner quand même. Et ensuite, poser des questions, mais des questions ouvertes et écouter. Et dire, plutôt que dire c'est nanana, c'est pas ça, c'est ça, dire tu penserais pas plutôt que ça pourrait, nanana. Qu'est-ce que tu penses de cette perspective, nanana. Et donc, c'est des approches, presque là, je parle de communication non violente, hein, voilà, je pense que le plus important, c'est déjà vous, investissez-vous, militez, rejoignez, et ça peut être même avoir un projet associatif, hein, faites quelque chose qui fait du sens pour vous, mais surtout ne restez pas seul, faites des choses ensemble, organisez-vous, parce que là, on va en avoir besoin, et plus ça va avancer, plus on va essayer de nous faire peur, peur d'aller en manif, peur d'écrire des livres, peur de poster sur les réseaux sociaux, peur d'aller en réunion féministe. L'extrême droite joue beaucoup sur ça, se fait plus grosse qu'elle ne l'est, et voilà, moi, genre, j'ai des menaces depuis presque une décennie, menaces de mort, de viol, et alors quoi ? Je suis toujours là, tu vois, et je refuse d'avoir peur, en fait, Et en fait, c'est ça qui les rend ouf, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, faire les choses, s'organiser, c'est beaucoup. Et ensuite, être une oreille attentive et au moment, y aller petit à petit, mais laisser les personnes réfléchir. Moi, je vois des personnes de mon entourage qui ont fait beaucoup de progression, on va dire. Ça a été très long, parce que déjà, pour des personnes, je sais pas, qui ont 80 ans, par exemple, de remettre en question toute leur vie et de se dire... Ah bah oui, en fait, là, peut-être que j'étais pas aussi libre que je le pensais, peut-être qu'il y avait un autre chemin qui était possible. Enfin, ça demande quand même un recul et une analyse de soi qui n'est pas évidente. Voilà. Du coup, laisser le temps, et ça marche des fois. Et puis, vraiment, montrer les angles, ça paye. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir été attentif. Donc, on se retrouve là-bas, pour ceux qui veulent...